Germaine de Staël, Delphine. Lettres 7 à 10 comprises. Lettre 7. Réponse de Mademoiselle d'Albémare à Delphine. Montpellier, 25 avril 1790. Ma chère Delphine, je suis fâchée que vous vous montriez si généreuse envers ces Vernon. Mon frère aimait encore mieux la fille que la mère, quoique la mère ait beaucoup plus d'agrément que la fille. Il croyait Madame de Vernon fausse jusqu'à la perfidie. Pardon si je me sers de ces mots, mais je ne sais pas comment dire leur équivalent, et je me confie en votre bonne amitié pour m'excuser. Mon frère pensait que Madame de Vernon, dans le fond du cœur, n'aimait rien, ne croyait à rien, ne s'embarrassait de rien, et que sa seule idée était de réussir, elle et les siens, dans tous les intérêts dont se composent la vie du monde, la fortune et la considération. Je sais bien qu'elle a supporté avec une douceur exemplaire le plus odieux des maris, et qu'elle n'a point eu d'amant, quoiqu'elle fût bien jolie. Il n'y a jamais eu un mot à dire contre elle. Mais dussiez-vous me trouver injuste, je vous avouerai que c'est précisément cette conduite régulière qui ne me paraît pas du tout s'accorder avec la légèreté de ses principes et l'insouciance de son caractère. Pourquoi s'est-elle pliée à tous les devoirs, même à tous les calculs, elle qui a l'air de n'attacher d'importance à aucun? Malgré les motifs qu'elle donne de l'éducation de sa fille, ne faut-il pas avoir bien peu de sensibilité pour ne pas former soi-même, et selon son propre caractère, la personne qu'on aime le plus, pour ne lui donner rien de son âme, et se la rendre étrangère par les opinions qui exercent le plus d'influence sur toute notre manière d'être? Il se peut que j'aie tort de juger si défavorablement une personne dont je ne connais aucune action blâmable. Mais sa physionomie, tout agréable qu'elle est, suffirait seule pour m'empêcher d'avoir la moindre confiance en elle. Je suis fermement convaincue que les sentiments habituels de l'âme laissent une trace très remarquable sur le visage. Grâce à cet avertissement de la nature, il n'y a point de dissimulation complète dans le monde. Je ne suis pas défiante, vous le savez, mais je regarde, et si l'on peut me tromper sur les faits, je démêle assez bien les caractères. C'est tout ce qu'il faut pour ne jamais mal placer ses affections. Que m'importe ce qu'il peut arriver de mes autres intérêts. Pour vous, ma chère Delphine, vous vous laissez entraîner par le charme de l'esprit, et je crains bien que, si vous livrez votre cœur à cette femme, elle ne le fasse cruellement souffrir. Rendez-lui service. Je ne suis pas difficile sur les qualités des personnes qu'on peut obliger. Mais on confie à ceux qu'on aime ce qu'il y a de plus délicat dans le bonheur. Et moi seule, ma chère Delphine, je vous aime assez pour ménager toujours votre sensibilité vive et profonde. C'est pour vous arracher à la séduction de cette femme que je voudrais aller à Paris. Mais je ne m'en sens pas la force. Il m'est absolument impossible de vaincre la répugnance que j'éprouve à sortir de ma solitude. Il faut bien vous avouer le motif de cette répugnance. Je consens à vous l'écrire. Mais je n'aurais jamais pu me résoudre à vous en parler, et je vous prie instamment de ne pas me répondre sur un sujet que je n'aime pas à traiter. Vous savez que j'ai l'extérieur du monde le moins agréable. Ma taille est contrefaite, et ma figure n'a point de grâce. Je n'ai jamais voulu me marier, quoique ma fortune attirât beaucoup de prétendants. J'ai vécu presque toujours seule, et je serais un mauvais guide pour moi-même et pour les autres au milieu des passions de la vie. Mais j'en sais assez pour avoir remarqué qu'une femme disgraciée de la nature est l'être le plus malheureux lorsqu'elle ne reste pas dans la retraite. La société est arrangée de manière que, pendant les 20 années de sa jeunesse, personne ne s'intéresse vivement à elle. On l'humilie à chaque instant sans le vouloir, et il n'est pas un seul des discours qui se tiennent devant elle qui ne réveille dans son âme un sentiment douloureux. J'aurais pu jouir, il est vrai, du bonheur d'avoir des enfants. Mais que ne souffrirais-je pas si j'avais transmis à ma fille les désavantages de ma figure, si je la voyais destinée, comme moi, à ne jamais connaître le bonheur suprême d'être le premier objet d'un homme sensible? Je ne le confie qu'à vous, ma chère Delphine. Mais, parce que je ne suis point faite pour inspirer de l'amour, il ne s'ensuit pas que mon cœur ne soit pas susceptible des affections les plus tendres. J'ai senti, presque au sortir de l'enfance, qu'avec ma figure il était ridicule d'aimer. Imaginez-vous de quels sentiments amers j'ai dû m'abreuver. Il était ridicule pour moi d'aimer. Et jamais, cependant, la nature n'avait formé un cœur à qui ce bonheur fût plus nécessaire. Un homme dont les défauts extérieurs seraient très marquants pourrait encore conserver les espérances les plus propres à le rendre heureux. Plusieurs ont ennobli, par des lauriers, les disgrâces de la nature. Mais les femmes n'ont d'existence que par l'amour. L'histoire de leur vie commence et finit avec l'amour. Et comment pourrait-elle inspirer ce sentiment sans quelques agréments qui puissent plaire aux yeux? La société fortifie à cet égard l'intention de la nature au lieu d'en modifier les effets. Elle rejette de son sein la femme infortunée que l'amour et la maternité ne doivent point couronner. Que de peines dévorantes n'a-t-elle point à souffrir dans le secret de son cœur? J'ai été romanesque, comme si je vous ressemblais, ma chère Delphine. Mais j'ai néanmoins trop de fierté pour ne pas cacher à tous les regards le malheureux contraste de ma destinée et de mon caractère. Comment suis-je donc parvenue à supporter le cours des années qui m'étaient échues? Je me suis enfermée dans la retraite, rassemblant sur votre tête tous mes intérêts, tous mes vœux, tous mes sentiments. Je me disais que j'aurais été vous si la nature m'eût accordé vos grâces et vos charmes. Et secondant de toute mon âme l'inclination de mon frère, je l'ai conjuré de vous laisser la portion de son bien qu'il me destinait. Qu'aurais-je fait de la richesse? J'en ai ce qu'il faut pour rendre heureux ceux qui m'entourent, pour soulager la fortune autour de moi. Mais quel autre usage de l'argent pourrais-je imaginer qui n'eût ajouté au sentiment douloureux qui pèse sur mon âme? Aurais-je embelli ma maison pour moi, mes jardins pour moi? Et jamais la reconnaissance d'un être chéri ne m'aurait récompensé de mes soins? Aurais-je réuni beaucoup de monde pour entendre parler de ce que les autres possèdent et de ce qui me manque? Aurais-je voulu courir le risque des propositions de mariage qu'on pouvait adresser à ma fortune? Et me serais-je condamné à supporter tous les détours qu'aurait pris l'intérêt avide pour endormir ma vanité et m'ôter jusqu'à l'estime de moi-même? Non, non, Delphine, ma sage résignation vaut bien mieux. Il ne me restait qu'un bonheur à espérer. Je l'ai goûté. Je vous ai adopté pour ma fille. J'avais manqué la vie. J'ai voulu vous donner tous les moyens d'en jouir. Je serais sans doute bien heureuse d'être près de vous, de vous voir, de vous entendre. mais avec vous seraient les plaisirs et la société brillante qui doivent vous entourer. Mon cœur, qui n'a point aimé, est encore trop jeune pour ne pas souffrir de son isolement, quand tous les objets que je verrai m'en renouvelleraient la pensée. Les peines d'imagination dépendent presque entièrement des circonstances qui nous les retracent. Elles s'effacent d'elles-mêmes, lorsque l'on ne voit ni n'entend rien qui en réveille le souvenir. Mais leur puissance devient terrible et profonde quand l'esprit est forcé de combattre à chaque instant contre des impressions nouvelles. Il faut pouvoir détourner son attention d'une douleur importune et s'en distraire avec adresse, car il faut de l'adresse vis-à-vis de soi-même pour ne pas trop souffrir. Je ne connais guère les autres, ma chère Delphine, mais assez bien moi, c'est le fruit de la solitude. Je suis parvenue, avec assez d'efforts, à me faire une existence qui me préserve des chagrins vifs. J'ai des occupations pour chaque heure, quoique rien ne remplisse mon existence entière. J'unis les jours aux jours, et cela fait un an, puis deux, puis la vie. Je n'ose changer de place, agiter mon sort ni mon âme. J'ai peur de perdre le résultat de mes réflexions et de troubler mes habitudes qui me sont encore plus nécessaires parce qu'elles me dispensent même et font passer le temps sans que je m'en mêle. Déjà, cette lettre va déranger mon repos pour plusieurs jours. Il ne faut pas me faire parler de moi. Il ne faut presque pas que j'y pense. Je vis en vous. Laissez-moi vous suivre de mes vœux, vous aider de mes conseils, si j'en peux donner pour ce monde que j'ignore. Apprenez-moi successivement et régulièrement les événements qui vous intéressent. Je croirais presque avoir vécu dans votre histoire. Je conserverai des souvenirs. Je jouirai par vous des sentiments que je n'ai pu ni inspirer ni connaître. Savez-vous que je suis presque fâchée que vous Mathilde avec Léonce de Mandeville. J'entends dire qu'il est si beau, si aimable et si fier qu'il me semblait digne de ma Delphine. Mais je l'espère, elle trouvera celui qui doit la rendre heureuse. Alors seulement, je serai vraiment tranquille. Quelque distingué que vous soyez, que feriez-vous sans appui? Vous exciteriez l'envie et elle vous persécuterait. Votre esprit, quelque supérieur qu'il soit, ne peut rien pour sa propre défense. La nature a voulu que tous les dons des femmes fussent destinés au bonheur des autres et de peu d'usage pour elles-mêmes. Adieu, ma chère Delphine. Je vous remercie de conserver l'habitude de votre enfance et de m'écrire tous les soirs ce qui vous a occupé pendant le jour. Nous lirons ensemble dans votre âme, et peut-être qu'à deux, nous aurons assez de force pour assurer votre bonheur. Lettre 8. Réponse de Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, 1er mai. Pourquoi m'avez-vous interdit de vous répondre, ma chère sœur, sur les motifs qui vous éloignent de Paris? Votre lettre excite en moi tant de sentiments que j'aurais le besoin d'exprimer. Ah, j'irai bientôt vous rejoindre, j'irai passer toutes mes années près de vous. Croyez-moi, cette vie de jeunesse et d'amour est moins heureuse que vous ne pensez. Je suis uniquement occupée depuis quelques jours du sort d'une de mes amies, Madame d'Hervin. C'est sa beauté même et les sentiments qu'elle inspire qui sont la source de ses erreurs et de ses peines. Vous savez que lorsque je vous quittais il y a un an, je tombais dangereusement malade à Bordeaux. Madame d'Hervin, dont la terre était voisine de cette ville, était venue pendant l'absence de son mari y passer quelques jours. Elle apprit mon nom, elle sut mon état, et vint avec une ineffable bonté s'établir chez moi pour me soigner. Elle me veilla pendant 15 jours, et je suis convaincue que je lui dois la vie. Sa présence calmait les agitations de mon sang, et quand je craignais de mourir, il me suffisait de regarder son aimable figure pour croire à de plus doux présages. Lorsque je commençais à me rétablir, je voulus connaître celle qui méritait déjà toute mon amitié. J'appris que c'était une Italienne dont la famille habitait Avignon. On l'avait mariée à 14 ans à M. Dervin, qui avait 25 ans de plus qu'elle, et la retenait depuis 10 ans dans la plus triste terre du monde. Thérèse Dervin est la beauté la plus séduisante que j'ai jamais rencontrée. Une expression à la fois naïve et passionnée donne à toute sa personne je ne sais quelle volupté d'amour et d'innocence singulièrement aimable. Elle n'a point reçu d'instruction, mais ses manières sont nobles et son langage est pur. Elle est dévote et superstitieuse comme les Italiennes, et n'a jamais réfléchi sérieusement sur la morale, quoiqu'elle se soit souvent occupée de la religion. Mais elle est si parfaitement bonne et tendre qu'elle n'aurait manqué à aucun devoir si elle avait eu pour époux un homme digne d'être aimé. Les qualités naturelles suffisent pour être honnête lorsque l'on est heureux. Mais quand le hasard et la société vous condamnent à lutter contre votre cœur, il faut des principes réfléchis pour se défendre de soi-même. Et les caractères les plus aimables dans les relations habituelles de la vie sont les plus exposés quand la vertu se trouve en combat avec la sensibilité. Le visage et les manières de Thérèse sont si jeunes qu'on a de la peine à croire qu'elle soit déjà la mère d'une fille de 9 ans. Elle ne s'en sépare jamais. Et la tendresse extrême qu'elle lui témoigne étonne cette pauvre petite qui éprouve confusément le besoin de la protection plutôt que celui d'un sentiment passionné. Son âme enfantine est surprise des vives émotions qu'elle excite. Une affection raisonnable et des conseils utiles la toucheraient peut-être davantage. Madame Dervin a vécu très bien avec son mari pendant 10 ans. La solitude et le défaut d'instruction ont prolongé son enfance. Mais le monde était à craindre pour son repos, et je suis malheureusement la première cause du temps qu'elle a passé à Bordeaux et de l'occasion qui s'est offerte pour elle de connaître M. de Serbellane. C'est un Toscan âgé de 30 ans, qui avait quitté l'Italie depuis 3 mois, attiré en France par la Révolution. Ami de la liberté, il voulait se fixer dans le pays qui combattait pour elle. Il vint me voir parce qu'il existait d'anciennes relations entre sa famille et la mienne. Je partis peu de jours après, mais j'avais déjà des raisons de craindre qu'il n'eût fait une impression profonde sur le cœur de Thérèse. Depuis 6 mois, elle m'a souvent écrit qu'elle souffrait, qu'elle était malheureuse, mais sans m'expliquer le sujet de ses peines. Monsieur de Serbellane est arrivé à Paris depuis 2 jours. Il est venu me voir, et ne m'ayant point trouvé, il m'a envoyé une lettre de Thérèse qui contient son histoire. Monsieur de Serbellane a sauvé son mari et elle, 1 mois après mon départ, des dangers que leur avait fait courir la haine des paysans contre Monsieur Dervin. Le courage, le sang-froid, la fermeté que Monsieur de Serbellane a montré dans cette circonstance ont touché jusqu'à l'orgueilleuse vanité de Monsieur Dervin. Il l'a prié de demeurer chez lui. Il y a passé 6 mois, et Thérèse, pendant ce temps, n'a pu résister à l'amour qu'elle ressentait. Les remords se sont bientôt emparés de son âme. Sans rien ôter à la violence de sa passion, ils multipliaient ses dangers, ils exposaient son secret. Son amour et les reproches qu'elle se faisait de cet amour compromettait également sa destinée. M. de Servelane a craint que M. d'Hervin ne s'aperçût du sentiment de sa femme et que l'amour-propre même qui servait à l'aveugler ne portât sa fureur au comble s'il découvrait jamais la vérité. Thérèse elle-même a désiré que son amant s'éloignât. Mais quand il a été parti, elle en a conçu une telle douleur que d'un jour à l'autre, il est à craindre qu'elle ne demande à son mari de la conduire à Paris. Il faut que je vous fasse connaître, monsieur de Servelane, pour que vous conceviez comment, avec beaucoup de raison et même assez de calme dans ses affections, il a pu inspirer à Thérèse un sentiment si vif. D'abord, je crois, en général, qu'un homme d'un caractère froid se fait aimer facilement d'une âme passionnée. Il captive et soutient l'intérêt en vous faisant supposer un secret au-delà de ce qu'il exprime. Et ce qui manque à son abandon peut, momentanément du moins, exciter davantage l'inquiétude et la sensibilité d'une femme. Les liaisons ainsi fondées ne sont peut-être pas les plus heureuses et les plus durables, mais elles agitent davantage le cœur assez faible pour s'y livrer. Thérèse, solitaire, exaltée et malheureuse, a été tellement entraînée par ses propres sentiments qu'on ne peut accuser M. de Servelane de l'avoir séduite. Il y a beaucoup de charme et de dignité dans sa contenance. Son visage a l'expression des habitants du Midi, et ses manières vous feraient croire qu'il est anglais. Le contraste de sa figure animée avec son accent calme et sa conduite toujours mesurée a quelque chose de très piquant. Son âme est forte et sérieuse. Son défaut, selon moi, c'est de ne jamais mettre complètement à l'aise ceux même qui lui sont chers. Il est tellement maître de lui qu'on trouve toujours une sorte d'inégalité dans les rapports qu'on entretient avec un homme qui n'a jamais dit à la fin du jour un seul mot involontaire. Il ne faut attribuer cette réserve à aucun sentiment de dissimulation ou de défiance, mais à l'habitude constante de se dominer lui-même et d'observer les autres. Un grand fond de bonté, une disposition secrète à la mélancolie rassure ceux qu'il aime et donne le besoin de mériter son estime. Des mots fins et délicats font entrevoir son caractère. Il semble qu'il comprend, qu'il partage, même tout bas, la sensibilité des autres, et que dans le secret de son cœur, il répond à l'émotion qu'on lui exprime. Mais tout ce qu'il éprouve en ce genre vous apparaît comme derrière un nuage, et l'imagination des personnes vives n'est jamais, avec lui, ni totalement découragée, ni entièrement satisfaite. Un tel homme devait nécessairement prendre un grand empire sur Thérèse. Mais son sort n'en est pas plus heureux, car il se joint à toutes ses peines l'inquiétude continuelle de se perdre, même dans l'estime de son amant. Tourmentée par les sentiments les plus opposés, par le remords d'avoir aimé et par la crainte de n'être pas assez aimée, ses lettres peignent une âme si agitée qu'on peut tout redouter de ses combats plus forts que son esprit et sa raison. Je rencontrai M. de Servelane chez Mme de Vernon le soir du jour où j'avais reçu la lettre de Thérèse. Je m'approchai de lui et je lui dis que je souhaitais de lui parler. Il se leva pour me suivre dans le jardin avec son expression de calme accoutumée. Je lui appris, sans entrer dans aucun détail, que j'avais su, par Madame d'Hervin, tout ce qui l'intéressait, mais que je frémissais de son projet de venir à Paris. « Il est impossible, continuai-je, avec le caractère que vous connaissez à Thérèse, que son sentiment pour vous ne soit pas bientôt découvert par les observateurs oisifs et pénétrants de ce pays-ci. Monsieur d'Hervin apprendra les torts de sa femme par de perfides plaisanteries, et la blessure d'amour-propre qu'il en recevra sera bien plus terrible. Écrivez donc à Madame d'Hervin. C'est à vous à la détourner de son dessein. » Madame, répondit Monsieur de Servelane, si je lui écrivais de ne pas me rejoindre, elle ne verrait dans cette conduite que le refroidissement de ma tendresse pour elle, et la douleur que je lui causerais serait la plus amère de toutes. Me convient-il à moi, qui suis coupable de l'avoir entraînée, de prendre maintenant le langage de l'amitié pour la diriger? Je révolterai son âme, je la ferai souffrir, et ma conduite ne serait pas véritablement délicate, car il n'y a de délicat que la parfaite bonté. Mais, lui dis-je alors, vous montrez cependant, dans toutes les circonstances, une raison si forte. J'en ai quelquefois, interrompit Monsieur de Servelane, lorsqu'il ne s'agit que de moi. Mais je trouve une sorte de barbarie dans la raison appliquée à la douleur d'un autre, et je ne m'en sers point dans une pareille situation. Que ferez-vous cependant, lui dis-je, si Madame d'Hervin vient dans ces lieux, si elle se perd, si son mari l'abandonne? Je souhaite, madame, me répondit Monsieur de Servelane, que Thérèse ne vienne point à Paris. Je consentirai au douloureux sacrifice de ne plus la revoir si son repos pouvait en dépendre. Mais si elle arrive ici et qu'elle se brouille avec son mari, je lui dévouerai ma vie. Et en supposant que les lois de France me permettent le divorce, je l'épouserai. Et pensez-vous, m'écriai-je, l'épouser, elle qui est catholique, dévote? Je vous parle uniquement, reprit avec tranquillité Monsieur de Servelane, de ce que je suis prêt à faire pour elle si son bonheur l'exige. Mais il vaut mieux, pour tous les deux, que nos destinées restent dans l'ordre, et j'espère que vous la déciderez à ne pas venir. Me permettrez-vous de le dire, monsieur? Lui répondis-je. Il y a dans votre conversation un singulier mélange d'exaltation et de froideur. Vous vous persuadez un peu légèrement, madame, répliqua Monsieur de Servelane, que j'ai de la froideur dans le caractère. Dès mon enfance, la timidité et la fierté réunies m'ont donné l'habitude de réprimer les signes extérieurs de mon émotion. Sans vous occuper trop longtemps de moi, je vous dirai que j'ai fait, comme la plupart des jeunes gens de mon âge, beaucoup de fautes en entrant dans le monde. Que ces fautes, par une combinaison de circonstances, ont eu des suites funestes, et qu'il m'est resté, de toutes les peines que j'ai éprouvées, assez de calme dans mes propres impressions, mais un profond respect pour la destinée des personnes qui, de quelque manière, dépendent de moi. Les passions impétueuses ont toujours pour but notre satisfaction personnelle. Ces passions sont très refroidies dans mon cœur. Mais je ne suis point blasée sur mes devoirs, et je n'ai rien de mieux à faire de moi que d'épargner de la douleur à ceux qui m'aiment, maintenant que je ne peux plus avoir ni goût vif, ni volonté forte qui ait pour objet mon propre bonheur. En achevant ces mots, une expression de mélancolie se peignit sur le visage de Monsieur de Servelane. J'éprouvais pour lui ce sentiment que fait naître en nous le malheur d'un homme distingué. Je lui pris moi-même la main comme à mon frère. Il comprit ce que j'éprouvais. Il m'en sut gré, mais son cœur se referma bientôt après. Je crus même entrevoir qu'il redoutait d'être entraîné à parler plus longtemps de lui, et je le suivis dans le salon où il remontait de son propre mouvement. Depuis cette conversation, je l'ai vu deux fois. Il a toujours évité de s'entretenir seul avec moi, et il y a dans ses manières une froideur qui rend impossible l'intimité. Cependant, il me regarde avec plus d'intérêt, s'adresse à moi dans la conversation générale, et je croirais qu'il veut m'indiquer que la personne à qui il a ouvert son cœur, même une seule fois, sera toujours pour lui un être à part. Mais, hélas, mon amie ne sera point heureuse, elle ne le sera point, et le remords et l'amour la déchireront en même temps. Que je bénis le ciel des principes de morale que vous m'avez inspirés, et peut-être même aussi des sentiments qu'on pourrait appeler romanesques, et qui, donnant une haute idée de soi-même et de l'amour, préserve des séductions du monde comme trop au-dessus des chimères que l'on aurait pu redouter. Je consacrerai ma vie, je l'espère, à m'occuper du sort de mes amis, et je ferai ma destinée de leur bonheur. Je prends un grand intérêt au mariage de Mathilde. J'y trouverai plus de plaisir encore si elle répondait vivement à mon amitié. Mais toutes ces démarches sont calculées, toutes ces paroles préparées. Je prévois sa réponse, je m'attends à sa visite. Quoiqu'il n'y ait point de fausseté dans son caractère, il y a si peu d'abandon qu'on sait avec elle la vie d'avance, comme si l'avenir était déjà du passé. Ma chère Louise, je vous le répète, je veux retourner vers vous, puisque vous ne voulez pas venir à Paris. Comment pourrais-je renoncer aux douceurs parfaites de notre intimité? Adieu. Lettre 9. Madame de Vernon à Monsieur de Clarimain, à sa terre, près de Montpellier. Paris, ce 2 mai. Toujours des inquiétudes, mon cher Clarimain, sur la dette que j'ai contractée avec vous. Ne vous ai-je pas mandé plusieurs fois que les réclamations de Madame de Mondeville sur la succession de Monsieur de Vernon étaient arrangées par le mariage de son fils avec ma fille? Je constitue en dot à Mathilde la terre d'Andely de 20 000 livres de rente. C'est beaucoup plus que la fortune de son père. Je ne lui devrai donc aucun compte de ma tutelle. Je n'étais gênée que par ce compte et par les diverses sommes que je devais rembourser à Madame de Mondeville sur la succession de Monsieur de Vernon. Mais il sera convenu dans le contrat que ces dettes ne seront payées qu'après moi, et je me trouve ainsi dispensée de rendre à Mathilde le bien de son père. Je puis donc vous garantir que vos 60 000 livres vous seront remises avant 2 mois. J'ajouterai, pour achever de vous rassurer, que je n'achète point la terre d'Andely. C'est Madame d'Albémar qui la donne à ma fille. J'avais cru jusqu'à présent cette confidence superflue, et je vous demande un profond secret. Madame d'Albémar est très riche. Je ne pense pas manquer de délicatesse en acceptant d'elle un don qui, tout considérable qu'il paraît, n'est pas un tiers de la fortune qu'elle tient de son mari. Cette fortune, vous le savez, devait nous revenir en grande partie. J'ai cru qu'il ne m'était pas interdit de profiter de la bienveillance de Madame d'Albémar pour l'intérêt de ma fille et pour celui de mes créanciers. Mais il est pourtant inutile que ce détail soit connu. Votre homme d'affaires vous a alarmé en vous donnant, comme une nouvelle certaine, que je voulais rembourser tout de suite à Madame d'Albémar les 40 000 livres qu'elle m'a prêtées à Montpellier. Il n'en est rien. Elle ne pense point à me les demander. Vous m'écrirez 20 lettres sur votre dette avant que Madame d'Albémar me dise un mot de la sienne. Ceci soit dit sans vous fâcher, mon cher Clarimain. L'on ne pense pas à 20 ans comme à 40, et si l'oubli de soi-même est un agrément dans une jeune personne, l'appréciation de nos intérêts est une chose très naturelle à notre âge. Madame d'Albémar, la plus jolie et la plus spirituelle des femmes qu'il y ait, ne s'imagine pas qu'elle doive soumettre sa conduite à aucun genre de calcul. C'est ce qui fait qu'elle peut se nuire beaucoup à elle-même, jamais aux autres. Elle voit tout, elle devine tout quand il s'agit de considérer les hommes et les idées sous un point de vue général. Mais dans ses affaires et ses affections, C'est une personne toute de premier mouvement et ne se servant jamais de son esprit pour éclairer ses sentiments, de peur peut-être qu'il se détruisît les illusions dont elle a besoin. Elle a reçu de son bizarre époux et d'une sœur contrefaite une éducation à la fois toute philosophique et toute romanesque. Mais que nous importe, elle n'en est que plus aimable. Les gens calmes aiment assez à rencontrer ces caractères exaltés qui leur offrent toujours quelques prises. Remettez-vous-en donc à moi, mon cher Clarimain. Laissez-moi terminer le mariage qui m'occupe et qui m'est nécessaire pour satisfaire à vos justes prétentions. Et voyez dans cette lettre, la plus longue, je crois, que j'ai écrite de ma vie, mon désir de vous ôter toute crainte et la confiance d'une ancienne et bien fidèle amitié. Sophie de Vernon. Lettre 10. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 3 mai. J'ai passé hier, chez Madame de Vernon, une soirée qui a singulièrement excité ma curiosité. Je ne sais si vous en recevrez la même impression que moi. L'ambassadeur d'Espagne présenta hier à ma tante un vieux duc espagnol, Monsieur de Mandos, qui allait remplir une place diplomatique en Allemagne. Comme il venait de Madrid et qu'il était parent de Madame de Mandeville, Madame de Vernon lui fit des questions très simples sur Léonce de Mandeville. Il parut d'abord extrêmement embarrassé dans ses réponses. L'ambassadeur d'Espagne s'approchant de lui comme il parlait, il dit à très haute voix que depuis 6 semaines, il n'avait point vu M. de Mandeville et qu'il n'était pas retourné chez sa mère. L'affectation qu'il mit à s'exprimer ainsi me donna de l'inquiétude. Et comme Madame de Vernon la partageait, je cherchais tous les moyens d'en savoir davantage. Je me mis à causer avec un Espagnol que j'avais déjà vu une ou deux fois et que j'avais remarqué comme spirituel, éclairé, mais un peu frondeur. Je lui demandai s'il connaissait le duc de Mandos. « Fort peu, répondit-il, mais je sais seulement qu'il n'y a point d'homme dans toute la cour d'Espagne aussi pénétré de respect pour le pouvoir. C'est une véritable curiosité que de le voir saluer un ministre. Ses épaules se plient dès qu'il l'aperçoit, avec une promptitude et une activité tout à fait amusantes. Et quand il se relève, il le regarde avec un air si obligeant, si affectueux, je dirais presque si attendri, que je ne doute pas qu'il n'ait vraiment aimé tous ceux qui ont eu du crédit à la cour d'Espagne depuis 30 ans. Sa conversation n'est pas moins curieuse que ses démonstrations extérieures. Il commence des phrases pour que le ministre les finisse. Il finit celle que le ministre a commencée. Sur quelque sujet que le ministre parle, le duc de Mandos l'accompagne d'un sourire gracieux, de petits mots approbateurs qui ressemblent à une basse continue, très monotone pour ceux qui écoutent, mais probablement agréable à celui qui en est l'objet. Quand il peut trouver l'occasion de reprocher au ministre le peu de soin qu'il prend de sa santé, les excès de travail qu'il se permet, il faut voir quelle énergie il met dans ces vérités dangereuses. On croirait, au ton de sa voix, qu'il s'expose à tout pour satisfaire sa conscience. Et ce n'est qu'à la réflexion qu'on observe que, pour varier la flatterie fade, il essaie de la flatterie brusque sur laquelle on est moins blasé. Ce n'est pas un méchant homme. Il préfère ne pas faire du mal et ne s'y décide que pour son intérêt. Il a, si l'on peut le dire, l'innocence de la bassesse. Il ne se doute pas qu'il y ait une autre morale, un autre honneur au monde, que le succès auprès du pouvoir. Il tient pour fou, je dirais presque pour malhonnête, quiconque ne se conduit pas comme lui. Si l'un de ses amis tombe dans la disgrâce, il cesse à l'instant tous ses rapports avec lui, sans aucune explication, comme une chose qui va de soi-même. Quand, par hasard, on lui demande s'il l'a vu, il répond « Vous sentez bien que dans les circonstances actuelles, je n'ai pu… » et, s'interrompant en fronçant le sourcil, ce qui signifie toujours l'importance qu'il attache à la défaveur du maître. Mais si vous n'entendez pas cette mine, il prend un ton ferme et vous dit les serviles motifs de sa conduite avec autant de confiance qu'en aurait un honnête homme, en vous déclarant qu'il a cessé de voir un ami qu'il n'estimait plus. Il n'a pas de considération à la cour de Madrid, seulement il obtient toujours des missions importantes, car les gens en place sont bien arrivés à se moquer des flatteurs, mais n'ont pas à leur préférer les hommes courageux. Et les flatteurs parviennent à tout, non pas comme autrefois en réussissant à tromper, mais en faisant preuve de souplesse, ce qui convient toujours à l'autorité. Ce portrait, que me confirmaient la physionomie et les manières de M. le duc de Mandos, me rassura un peu sur l'embarras qu'il avait témoigné en parlant de M. de Mondeville. Mais je résolus cependant d'en savoir davantage, et après avoir remercié le spirituel espagnol, j'allai me rejoindre à la société. Je retins le duc sous divers prétextes, et quand l'ambassadeur d'Espagne fut parti, et qu'il ne resta presque plus personne, Madame de Vernon et moi nous prîmes le duc à part, et je lui demandai formellement s'il ne savait rien de M. de Mondeville qui pût intéresser les amis de sa mère. Il regarda de tous les côtés pour s'assurer mieux encore que son ambassadeur n'y était plus, et me dit « Je vais vous parler naturellement, madame, puisque vous vous intéressez à Léonce. Sa position est mauvaise, mais je ne la tiens pas pour désespérée si l'on parvient à lui faire entendre raison. C'est un jeune homme de 25 ans, d'une figure charmante. Vous ne connaissez rien ici qui en approche. Spirituel, mais très mauvaise tête. Fou de ce qu'il appelle la réputation, l'opinion publique, et prêt à sacrifier pour cette opinion, ou pour son ombre même, les intérêts les plus importants de la vie. Voici ce qui est arrivé. Un des cousins de M. de Mondeville, très bon et très joli jeune homme, a fait sa cour cet hiver à Mademoiselle de Sorane, la nièce de notre ministre actuel, Son Excellence Monsieur le Comte de Sorane. Il a su, en très peu de temps, lui plaire et la séduire. Je dois vous avouer, puisque nous parlons ici confidentiellement, que Mademoiselle de Sorane, âgée de 25 ans et ayant perdu son père et sa mère de bonne heure, vivait depuis plusieurs années dans le monde avec trop de liberté. L'on avait soupçonné sa conduite, soit à tort, soit justement. Mais enfin, pour cette fois, elle voulut se marier et fit connaître clairement son intention à cet égard et celle du ministre, son oncle. Il n'y avait pas à hésiter. Charles de Mondeville ne pouvait pas faire un meilleur mariage. Fortune, crédit, naissance, tout y était, et je sais positivement que lui-même en jugeait ainsi. Mais Léonce, qui exerce dans sa famille une autorité qui ne convient pas à son âge, Léonce, qu'il consulte tous comme l'oracle de l'honneur, déclara qu'il trouvait indigne de son cousin d'épouser une femme qui avait eu une conduite méprisable. Et ce qui est vraiment de la folie, il ajouta que c'était précisément parce qu'elle était la nièce d'un homme très puissant qu'il fallait se garder de l'épouser. Mon cousin, disait-il, pourrait faire un mauvais mariage s'il était bien clair que l'amour seul l'y entraîna. Mais dès qu'on peut soupçonner qu'il y est forcé par une considération d'intérêt ou de crainte, je ne le reverrai jamais s'il y consent. Le frère de Mademoiselle de Sorane se battit avec le parent de M. de Mondeville et fut grièvement blessé. Tout Madrid croyait qu'à sa guérison, le mariage se ferait. On répandit que le ministre avait déclaré qu'il enverrait le régiment de Charles de Mondeville dans les Indes occidentales s'il n'épousait pas mademoiselle de Sorane, qui était, disait-on, singulièrement attachée à son futur époux. Mais Léonce, par un entêtement que je m'abstiens de qualifier, dédaigna la menace du ministre, chercha toutes les occasions de faire savoir qu'il la bravait, excita son cousin à rompre ouvertement avec la famille de mademoiselle de Sorane, dit à qui voulut l'entendre qu'il n'attendait que la guérison du frère de mademoiselle de Sorane pour se battre avec lui, s'il voulait bien lui donner la préférence sur son cousin. Les deux familles se sont brouillées. Charles de Mondeville a reçu l'ordre de partir pour les Indes. Mademoiselle de Sorane a été au désespoir, tout à fait perdue de réputation. Et pour comble de malheur, enfin, Léonce a tellement déplu au roi qu'il n'est plus retourné à la cour. Vous comprenez que depuis ce temps je ne l'ai plus revu, et comme je suis partie d'Espagne avant que le frère de mademoiselle de Sorane fût guéri, je ne sais pas les suites de cette affaire. Mais je crains bien qu'elle ne soit très sérieuse et qu'elle ne fasse beaucoup de tort à Léonce. L'Espagnol, que j'avais interrogé sur le caractère du duc de Mandos, s'approcha de nous dans ce moment. Et, entendant que l'on parlait de M. de Mondeville, il dit « Je le connais, et je sais tous les détails de l'événement dont M. le duc vient de vous parler. » Permettez-moi d'y joindre quelques observations que je crois nécessaires. Léon, s'il est vrai, s'est conduit dans cette circonstance avec beaucoup de hauteur. Mais on a pu s'empêcher de l'admirer, précisément par les motifs qui aggravent ses torts dans l'opinion de M. le duc. Le crédit de la famille de mademoiselle de Sorane était si grand, les menaces du ministre si publiques, et la conduite de mademoiselle de Sorane avait été si mauvaise qu'il était impossible qu'on n'accusât pas de faiblesse celui qui l'épouserait. M. de Mondeville aurait peut-être dû laisser son cousin se décider seul. Mais il l'a conseillé comme il aurait agi. Il s'est mis en avant autant qu'il lui a été possible pour détourner le danger sur lui-même. Et peut-être ne sera-t-il que trop prouvé dans la suite qu'il y est bien parvenu. Il a donné une partie de sa fortune à son cousin pour le dédommager d'aller aux Indes. Enfin, sa conduite a montré qu'aucun genre de sacrifice personnel ne lui coûtait quand il s'agissait de préserver de la moindre tâche la réputation d'un homme qui portait son nom. Le caractère de M. de Mondeville réunit au plus haut degré la fierté, le courage, l'intrépidité, tout ce qui peut enfin inspirer du respect. Les jeunes gens de son âge ont, sans qu'ils le veuillent presque malgré lui, une grande déférence pour ses conseils. Il y a dans son âme une force, une énergie qui, tempérée par la bonté, inspire pour lui la plus haute considération. Et j'ai vu plusieurs fois qu'on se rangeait quand il passait par un mouvement involontaire, dont ses amis riaient à la réflexion, mais qui les reprenait à leur insu comme toutes les impressions naturelles. Il est vrai néanmoins que Léonce de Mondeville porte peut-être jusqu'à l'exagération le respect de l'opinion, et l'on pourrait désirer pour son bonheur qu'il sût s'en affranchir davantage. Mais dans la circonstance dont M. le duc vient de parler, sa conduite lui a valu l'estime générale, et je pense que tous ceux qui l'aiment doivent en être fiers. » Le duc ne répliqua point au défenseur de Léonce. Il ne lui était point utile de le combattre, et les hommes qui prennent leur intérêt pour guide toute leur vie ne mettent aucune chaleur ni aux opinions qu'ils soutiennent, ni à celles qu'on leur dispute. Céder et se taire est tellement leur habitude qu'ils la pratiquent avec leurs égaux pour s'y préparer avec leurs supérieurs. Il résulta pour moi, de toute cette discussion, une grande curiosité de connaître le caractère de Léonce. Son précepteur et son meilleur ami, celui qui lui a tenu de père depuis 10 ans, M. Barton doit être ici demain. Je croirai ce qu'il me dira de son élève. Mais n'est-ce pas déjà un trait honorable pour un jeune homme que d'avoir conservé non seulement de l'estime, mais de l'attachement et de la confiance pour l'homme qui a dû nécessairement contrarier ses défauts et même ses goûts. Tous les sentiments qui naissent de la reconnaissance ont un caractère religieux. Ils élèvent l'âme qui les éprouve. Ah, combien je désire que Madame de Vernon ait fait un bon choix. Le charme de sa vie intérieure dépendra nécessairement de l'époux de sa fille. Mathilde elle-même ne sera jamais ni très heureuse ni très malheureuse. Il ne peut en être ainsi de Madame de Vernon. Espérons que Léonce, si fière, si irritable, si généralement admirée, aura cette bonté sans laquelle il faut redouter une âme forte et un esprit supérieur, bien loin du désirer de s'en rapprocher.